Vous êtes sur RTL.
On a quand même un peu débordé.
Et
on
légèrement, va tout de suite... mais c'est pas grave, légèrement. Tout...
Vous acceptez parce que c'est Eddie.
Exactement, voilà, et voilà, son voilà. Fils. Il y a une minute pour Eddie, une minute pour son fils. Voilà, c'est pour ça. Heureusement que c'est pas une famille très nombreuse non plus, parce que j'aurais démarré à 10h. Je vous souhaite une belle journée.
Bonne émission.
Salut.
Salut.
Alors, mesdames et messieurs, nous sommes là, bien sûr, pour aider entre autres Aurélie, qui est déjà là. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Ben, bonjour Aurélie, qui va nous dire dans quelques instants qu'elle a, elle était professeure des écoles. Combien vous doit l'État ?
Il me doit 7000 euros.
En ce moment, je ne sais pas ce que vous en pensez, Aurélie, mais il ne paye pas beaucoup les uns les autres. Hein. Entre
c'est
nous,
ça.
L'État qui doit de l'argent à des loyers, à des propriétaires qui ne paient plus le loyer, vous, on s'en
c'est
occupe
ça.
Dans quelques instants.
Et c'est gentil, merci.
Pour régler ce problème et tous les autres, que la force soit avec nous. Anne-Claire Moser, avocate de Reims, est avec nous. Bonjour Anne-Claire.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Négociation Bernard Sabat.
Bonjour à tous.
Il y a JB, il y a Charlotte, il y a Céline.
Bonjour.
Alain Hazard, notre rédacteur en chef, est là. Ainsi que Xavier Kassovitch qui réalise cette émission. C'est le 9h30, 11h30, 2h de direct pour régler vos problèmes sur RTL. Alors, je tiens à préciser qu'en ce qui concerne Aurélie, je crois, il va y avoir un duplex organisé. Et écoutez bien, ce duplex sera organisé par Hervé Pouchol.
Il est tombé, c'est mort.
Non, ne dites pas encore ça, il ne l'a pas. Ça va, Hervé ?
Ah bah, moi, oui, tout va bien, mon cher Julien. Sauf que sur ma fiche, je n'ai absolument pas Aurélie.
Oui, mais bon, je me suis trompé. Mais enfin, d'un autre côté, on sait bien que quand vous allez en duplex, le résultat, de toute façon, on le connaît d'avance. Donc, que vous alliez chez Aurélie, chez Jean-Paul ou chez Jean-Pierre, vous prenez un peu l'air et puis c'est tout. Bon, vous êtes prêts ?
Oui, je suis prêt, oui.
Ça sera pour le deuxième cas, autant pour moi. Nous allons vous rappeler que vous pouvez intervenir à n'importe quel moment dans l'émission.
Qui peut nous aider ? C'est Julien Courbet. Qui faut-il appeler ?
À n'importe quel moment pour nous décéder dans une enquête ou pour nous donner votre cas, vous faites le 32-10.
50 centimes d'euros à la minute.
Allez, c'est parti.
9h30, 11h30.
Aurélie, vous êtes à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine.
À Montpellier.
Oh là là. Est-ce que, déjà, nous sommes sur quelle radio ? Est-ce que quelqu'un va me dire ? C'est bien RTL ?
Oui.
Très bien, vous êtes à la Grande Motte.
Oui, c'est ça.
Ben, j'aurais dû m'en douter, vous êtes dans l'Hérault, j'aurais dû m'en douter parce que vous m'avez appelé de la Grande Motte cet été avec le camping-car quand elle a fait le tour de France, Céline.
Alors la Grande Motte, c'est une superbe station balnéaire qui est connue pour ses bâtiments en forme de pyramide. Il y a aussi des superbes plages comme la plage du Couchant ou la plage du Point Zéro. Et il y a un étang marin qui s'appelle l'étang du Ponant où on peut faire de la planche à voile, je vous recommande.
Aurélie, vous avez travaillé 10 ans en tant que professeur des écoles. En 2016, vous décidez de changer de vie et vous allez créer votre entreprise dans l'immobilier. L'Éducation nationale vous accorde alors une indemnité de départ volontaire de combien, Aurélie ?
De 14 000 euros.
14 505,92 Aurélie, pour être précis.
C'est ça, oui.
Cette somme doit vous être versée en deux fois. Vous avez reçu la moitié, soit 7 252 en mai 2016. Mm-hmm. Et vous deviez recevoir la deuxième partie quand ça ?
L'année suivante.
Et ce n'est pas le cas. Depuis maintenant, combien de temps vous battez-vous avec le rectorat pour leur dire vous me devez 7 200 euros que vous ne me donnez pas ?
Ça fait 4 ans.
Mais qu'est-ce qu'on vous répond ? Quand vous les appelez en leur disant « vous auriez déjà dû me les donner depuis 4 ans ».
Ils me répondent que ça ne se fait pas comme ça, qu'il faut que je renvoie des documents qui sont toujours les mêmes et qu'à chaque fois je renvoie.
Voilà. Si seulement nous pouvions, le poujadiste qui est en moi se réveille, dire comme ça quand il s'agit de payer les impôts ou les amendes. Mais ça ne se fait pas comme ça enfin ! Il me faut 4 ans moi pour payer mon amende. Malheureusement, nous on n'y a pas le droit. Alors on va tout de suite demander à Céline des explications supplémentaires. Aurélie versus le rectorat.
Alors, ce qui est étonnant dans ce dossier, c'est que normalement, elle aurait dû recevoir cette somme bien plus tôt, puisqu'il est indiqué sur le site de l'État que la deuxième partie de la somme qu'Aurélie attend, donc plus de 7000 euros, est censée être versée un an après la création de son entreprise. Elle a juste à fournir un CABIS de son entreprise pour attester qu'elle travaille toujours au sein de sa boîte, et l'argent devrait être versé très rapidement.
Alors, nous allons nous tourner vers notre avocate, Anne-Claire Moser. Est-ce qu'il y a un article de loi particulier à citer ? Parce que c'est très important pour nous, donc article de loi.
Et tout de suite sur RTL, l'article de loi qui va vous donner raison.
Lequel ?
Alors c'est mieux que ça, Julien, puisqu'en réalité il y a un décret du 17 avril 2008 qui institue cette fameuse indemnité de départ volontaire pour le fonctionnaire qui veut par exemple créer son entreprise, qui est précisément le cas d'Aurélie. Et il y a, plus précis encore, une circulaire du 27 janvier 2017, donc qui est très fraîche, et qui vient nous indiquer les modalités de versement de cette indemnité. Et les modalités de versement, l'éducation nationale ne peut pas dire on ne sait pas, puisque c'est extrêmement précis, je vous en reparlerai tout à l'heure.
Aurélie, aujourd'hui l'objectif c'est que le rectorat vous verse le reste de votre indemnité, mais les conséquences surtout, c'est que vous en aviez besoin de ces 7 200 € pour vous aider dans le lancement de votre micro-entreprise. Vous êtes agent immobilier à votre compte, vous avez de gros frais d'essence, de publicité à assumer chaque mois, et donc aujourd'hui cet argent manque vraiment, Aurélie ?
Oui, tout à fait.
Mais Aurélie, est-ce que, enfin je ne sais pas, comment vous réagissez quand vous vous apercevez quand même que c'est l'État qui vous doit des sous et qu'il ne vous les donne pas ?
Ça met en colère de voir une telle mauvaise foi, parce que l'extrait cabine, j'ai fourni plusieurs fois. À chaque fois,
C'est-à-dire que ce qui énerve et ce qui rend fou, ce n'est pas tellement le fait que l'argent n'arrive pas parce qu'il peut y avoir une bonne raison, c'est qu'à chaque fois on lui dit ce n'est pas le bon papier alors qu'elle a envoyé le bon papier, on gagne du temps comme ça en prenant un petit peu les gens pour des idiots, Anne-Claire Moser.
Oui, effectivement, d'autant plus que cette fameuse circulaire dont je vous parlais et qui est extrêmement importante puisque c'est celle qui nous détaille ce qu'il faut faire, nous dit bien qu'il faut un document attestant de la réalité de l'entreprise pour avoir ce fameux deuxième versement dans l'année qui suit. Nulle part il n'est indiqué qu'il faut un bilan ou un livre de recettes, et c'est ce qu'essaie de faire le rectorat pour faire tourner en bourrique notre auditrice en disant bah, donnez-moi votre livre de recettes, etc. Elle n'a pas à faire cela, ce n'est pas indiqué dans la circulaire.
Bon, alors nous allons nous en occuper. Céline et Bernard, vous avez les numéros. Dans quelques instants, nous allons appeler le rectorat et je pense que ce dossier va remonter jusqu'au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Aurélie, retroussez vos manches, nous allons nous occuper de vous et si ça ne marche pas aujourd'hui, vous allez entrer dans cette nouvelle rubrique que nous traitons maintenant depuis quelques jours, la fameuse rubrique de ceux qui se battent contre l'État.
Ne m'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé tomber.
L'appel arrive dans quelques instants, alors je précise que nous sommes à la radio, mais je me dois, et c'est mon métier, de vous expliquer aussi ce qui se passe autour de nous, et Anne-Claire Moser aujourd'hui est venue avec un blouson, on se croirait en pleine forêt amazonienne. Est-ce que vous connaissez Aurélie, la compagnie créole ?
Eh
bien,
oui.
Écoutez bien, le gilet qu'elle pose est décrit dans cette chanson. Il y a des perroquets bleus, effectivement, qui boivent du lait de coco sur son blouson. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. De quoi s'agira-t-il, Charlotte, dans quelques instants ?
On va revenir sur le cas de Monique. Cela fait 2 ans qu'elle ne peut pas rentrer dans la maison héritée de ses parents. Il y a des squatteurs.
2 ans qu'elle attend pour rentrer chez elle. Mais attention, mesdames et messieurs, il y a peut-être du nouveau.
RTL.
Julien Courbet, c'est le nom qu'il y a sur ma carte d'identité, mais j'ai un surnom, je le dis tout à fait modestement, les femmes dans RTL m'appellent tous Zygaris. Je vous assure. Vous savez pourquoi ?
Non.
Je vais vous le dire.
Avec Zygaris, vos jambes sont entre de bonnes mains.
Alors, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, Aurélie, revenir sur votre dossier. Pouvez-vous rappeler, s'il vous plaît, Charlotte, de quoi il s'agit ?
Elle est professeure des écoles et elle a quitté l'éducation nationale il y a quelques années, donc elle aurait dû toucher une indemnité de départ volontaire de 14 500 euros, parce que ça s'accorde, il y a un S, et elle n'a touché que la moitié.
Vous avez été briefée par Alain Hazard, c'est bien. Aurélie, nous appelons immédiatement. C'est parti, donc Céline, nous commençons par...
Le rectorat de Montpellier.
Allez Bernard, préparez-vous une négociation.
On est prêt.
Objectif, obtenir 7 200 € qui sont dus depuis près de 4 ans maintenant. C'est parti, allô ? Quelqu'un répond, allô ? Le rectorat ?
On va relancer, je pense.
Oui, vous avez entendu quelqu'un parler ?
Mais j'ai vu que ça a décroché, mais je ne sais pas s'il y avait quelqu'un au bout du fil.
Alors, on y retourne une deuxième fois. Rectorat de Montpellier, deuxième tentative. Après, nous avons d'autres numéros, plus directs, mais nous passons toujours par le standard pour suivre le chemin habituel. Attention, voilà. Là, on entend une sonnerie. Mais on a un matériel qui est quand même très compliqué, il faut le dire. Surtout, on a acheté un matériel.
Bonjour.
Je vous expliquerai après. Oui, bonjour, le rectorat de Montpellier. Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct au moment où je vous parle sur la radio RTL. Est-ce qu'il est possible d'avoir ou Madame Ndiaye ou Madame Sophie Béjean concernant une dame à qui le rectorat doit des sous depuis 4 ans, s'il vous plaît ?
Ne quittez pas.
Merci madame, on vous souhaite une bonne journée. Merci. C'est normal, elle me répond. Attendez, je lui souhaite bonne journée, elle me souhaite bonne journée, je lui dis merci. Enfin, c'est les règles de base de la politesse. Je ne vois pas pourquoi vous riez. Céline, cette dame, donc on a une musique d'attente ?
Rien du tout.
Rien du tout. Alors, oui, vous vouliez dire Anne-Claire Moses.
Oui, je voulais, pour bien expliquer à nos auditeurs que cette fameuse indemnité de départ volontaire, elle est donc versée en deux fois, on l'a compris. La première fois, c'est au moment où l'entreprise est créée ou va être créée. Et notre auditrice l'a eu un petit peu avant la création de l'entreprise. Et l'autre partie, c'est un an après. Il y a vraiment un délai qui est inscrit dans la circulaire et l'État va s'assurer que l'entreprise a bel et bien été créée et c'est ce dont justifie Aurélie maintenant depuis plusieurs années.
Ça fait 4 ans qu'elle envoie des cabis. Alors, une alerte, Céline.
Nous sommes en ligne avec Jacinthe Ndiaye qui est la gestionnaire du dossier.
Bonjour madame. M'entendez-vous ? Je me présente, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Alors, je vous explique juste et après vous verrez si vous pouvez me passer quelqu'un ou pas. Allô, ma mère est près de toi, tu dois lui dire maman, il y a Courbet pour toi.
Mais ma maman, elle a raccroché parce qu'elle a aucune envie de vous parler.
Non, elle est là, elle est là.
Non, excusez, j'avais raccroché, je suis désolé. Jacinthe, vous êtes là ? Jacinthe ?
Alors,
je me présente, Jacinthe. Non, c'est pas du tout une plaisanterie. Je pensais qu'on avait raccroché, c'est pour ça. Je vous appelle.
Vous allez le faire.
On m'appelle Jean-Pierre un coup d'avance. C'est pour ça que je sentais que vous alliez raccrocher. Alors, Jacinthe, je vous explique. On est à la radio et je suis avec Aurélie Bonneau. Aurélie Bonneau a travaillé pendant 10 ans en tant que professeure des écoles. Elle a décidé de changer de vie. Elle a créé son entreprise dans l'immobilier. Et vous savez que l'État, l'Éducation nationale, lui accorde une indemnité de départ. La sienne était de 14 500 euros, payable en deux fois. Eh bien, ça fait maintenant 4 ans qu'elle attend la deuxième partie, 4 ans qu'elle vous envoie des cabisses de sa société et 4 ans qu'on ne lui paie pas. Je crois que vous connaissez ce cas, c'est vous la gestionnaire des dossiers.
Oui, mais c'est une question que je... Oui, effectivement, mais bon, en fait, c'est un dossier qui a été repris par plusieurs gestionnaires, hein, puisque moi, j'ai pris le relais, mais je refuse d'en parler.
Ah, mais il n'y a aucun souci, là. C'est juste, voilà. Est-ce que vous pouvez remonter l'information ? Parce que nous, comme ce matin, on explique à tous les Français qui nous écoutent que ça fait 4 ans que ce dossier n'est pas traité, à qui puis-je m'adresser ? À qui surtout
si le
elle ?
Le dossier a été traité, monsieur.
Oui, mais madame, elle n'a pas l'argent. Voilà. Alors Aurélie, est-ce que vous avez l'argent ? Allez-y, Aurélie.
Oui, non, c'est pas vrai. Je n'ai toujours pas la seconde partie, malgré avoir fourni il y a encore 3 semaines un extrait cabinet et un avis d'imposition.
Ce qui est insupportable, c'est quand les gens vous disent le dossier est traité. C'est-à-dire qu'ils doivent donner de l'argent et ils vous disent il est traité. Et il est traité parce que pour eux, traiter un dossier, c'est de dire oui, on va s'en occuper bientôt, demain, après-demain, etc. C'est pas ça, traiter un dossier, c'est le régler. Anne-Claire Moser, avocate.
Le pompon, Julien, c'est que l'argent existe bel et bien puisque le rectorat nous a indiqué à notre auditrice le 9 octobre 2018 qu'il était bloqué en attendant d'avoir les documents qu'elle lui envoie. Donc l'argent, il est bel et bien là et ils ne veulent pas lui donner.
Bernard, vous intervenez, vous essayez d'avoir la rectrice de l'Académie de Montpellier, c'est madame Sophie Béjean. Alors, madame Ndiaye, je pense qu'elle n'avait pas envie de nous parler sur l'antenne. Peut-être pouvez-vous essayer de l'avoir en antenne. Mais encore une fois, si c'est pour nous dire que le dossier est traité, ça ne sert à rien. Heureusement, il ne manquait plus qu'une chose, qu'ils nous disent ah ben non, on s'en est même pas occupé de son truc, il doit être sous une armoire. Bien sûr qu'il s'en occupe. Maintenant, il faut payer. Sauf qu'il trouve à chaque fois une nouvelle excuse pour ne pas payer. Alors, rectorat de Montpellier, soyez sympa. Rappelez-nous vite, madame Sophie Béjean. C'est parti, Bernard, pour vous. Hervé Pouchol, vous êtes prêt à intervenir pour un duplex dans quelques minutes ?
Moi, je veux bien. Je peux aller à Montpellier aussi.
Dis-toi, si Hervé, est-ce que vous ne seriez pas en train de patienter dans un bistrot ?
Ben si.
Parce que là, vous étiez un peu hésitant quand vous avez pris la parole. Donc, où vous trouvez-vous exactement ?
Ben, je suis justement dans un bistrot. C'est le seul endroit qui a bien voulu m'accueillir parce que je me trouve en face d'un siège mais vraiment immense. Je ne sais même pas par où je vais rentrer.
Par la porte. En général, c'est ce que font les gens et vous allez voir, c'est une technique maintenant qui a fait ses preuves. On se retrouve dans quelques instants, Hervé. Ça promet un grand dossier. Quand vous avez comme ça un journaliste de renom qui vous dit « je suis face à un immeuble, mais je ne sais pas par où je vais rentrer », vous pouvez d'ores et déjà vous dire que vous allez avoir un grand dossier. À tout à l'heure, Hervé. Alors nous, on va revenir sur notre rubrique. On en parlait il y a quelques instants, « Ne m'appelez plus jamais France ».
Ne m'appelez plus jamais France.
Combien de temps qu'elle attend ?
2 ans.
2 ans, mesdames et messieurs, qu'elle ne peut pas rentrer chez elle.
Puisque des squatteurs se sont installés dans la maison qu'elle avait héritée de ses parents, malgré un arrêté d'expulsion, eh bien rien ne se passe.
Eh bien nous ne lâchons pas, nous lui avons promis qu'on y reviendrait tous les jours, c'est ce que nous faisons, 3e passage sur l'antenne d'RTL, mais aujourd'hui, il y a peut-être du nouveau, et ça vous allez le savoir dans quelques instants. Mercredi 7 octobre, la plus belle des journées sur RTL.
Julien Courbet.
sur RTL.
L'intro de ce titre a fait le tour de la planète. L'intro de ce titre a servi à des milliers et des milliers d'équipes d'entrer sous les applaudissements du public complètement transcendés. Il s'appelait Eddie Van Halen, fondateur du groupe du même nom. C'est lui qui a composé ce jump et qui nous a quittés hier à l'âge de 65 ans. Mesdames et messieurs, nous lui rendons hommage ce matin avec cette intro mythique. Voici Jump de Van Halen en 84. Un guitariste hors pair, Van Halen. Mais c'est vrai que cette introduction musicale, moi-même, je l'ai imposée. Ça paraît peut-être un peu ridicule, mais pour motiver mes troupes, quand ils arrivent le matin dans le studio, je demande à ce que cette musique soit mise et je les cite un par un. Anne-Claire Moser, Charlotte Méritant, Bernard Sabat. Et là, malheureusement, on arrête immédiatement. Merci, hein. Ça casse un peu le truc. Alors, justement, Bernard, vous nous expliquerez dans quelques instants que vous essayez d'avoir le rectorat. Mais là, nous devons parler de Monique une nouvelle fois. Voici une auditrice qui se bat contre l'État. Ne m'appelez... Oui, alors là, voilà. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand je donne trop de consignes... Quand on en arrive à confondre Van Halen et Michel Sardou, c'est qu'on n'est plus très loin d'avoir ses points retraite. Nous allons donc reparler de Monique Charlotte.
Ça fait 2 ans qu'elle ne veut pas rentrer dans la maison héritée de ses parents parce qu'elle est squattée et il y a eu un arrêté d'expulsion en 2019 qui n'est pas appliqué.
Alors Monique, est-ce qu'elle est en ligne avec nous déjà, Monique ?
Oui, je suis là.
Je vous ai promis, Monique, qu'on en parlerait tous les matins et nous le faisons car nous trouverons ça complètement injuste. Je rappelle en plus que ce ne sont pas des gens qui en pleine nuit ne savaient pas où dormir et ont trouvé un toit, c'était bien organisé, camion de déménagement pour les squatteurs. Maintenant, quand on s'approche, molosse pour faire fuir ceux qui viendraient essayer de demander des explications. On ne comprenait pas, et vous nous avez expliqué, on va le réexpliquer la dernière fois, pourquoi l'expulsion ne devait pas avoir lieu, puisqu'on sait qu'en hiver, et c'est normal, on ne peut pas expulser les gens, mais quand il y a comme ça un squat, c'est différent.
Absolument, c'est la loi Elan, et la trêve hivernale ne s'applique pas, Julien.
Il y avait cette date du 12, puisqu'on a relancé la préfecture. Bon, peu importe. Est-ce que, Monique, vous savez ce que maintenant Charlotte va vous dire ? Et écoutez bien.
Monique le sait puisque c'est elle qui m'a transmis ce mail, cette très bonne nouvelle de la part de son avocat qui a été en lien avec l'huissier de justice qui annonce la date de l'expulsion au 13 octobre 2020, donc dans quelques jours seulement, à 8h30.
Dans une semaine, très exactement. Monique, est-ce que cela vous convient ?
Oui, écoutez, Julien, je tiens quand même à préciser la journée d'hier, parce qu'elle est incroyable. Ah. Hier matin, je contacte le cabinet d'huissier et le cabinet d'avocat, qui me confirment qu'ils viennent de recevoir l'aide de la force publique pour une évacuation au 3 avril 2021.
Waouh.
Après la trêve hivernale.
D'accord.
Donc voilà l'information que j'ai hier matin. Hier après-midi, miraculeusement, nouveau courrier de la préfecture et des forces de police qui annoncent une évacuation début de semaine prochaine.
Bien.
Donc, honnêtement, j'aime mon pays, hein, je respecte nos institutions, mais là, c'est scandaleux. Il faut l'intervention des médias et de votre émission, Julien Courbet, hein, je vous remercie ainsi que votre équipe et tous vos collaborateurs, mais il faut l'intervention des médias pour faire avancer les choses et pour faire respecter le droit d'honnêtes citoyens.
Bon, écoutez, nous, ce qui compte, c'est que nos amis de la préfecture des Bouches-du-Rhône nous aient écoutés. Donc, le 13, on va vérifier ça, on sera là. Moi, je remercie en tout cas M. Mirmand, le préfet, de s'occuper des gens dont il a la responsabilité, des Françaises et des Français comme vous. Normalement, le 13, vous allez récupérer la maison, mais on continuera à se parler, Monique, puisqu'il y aura le deuxième aspect du dossier, Monique. Votre maison est saccagée. L'État n'ayant pas expulsé dans les 48 heures comme il pouvait le faire, il va falloir qu'il y ait indemnisation. Donc, Monique, notre prochain rendez-vous, c'est le 13. Si le 13, il n'y a pas expulsion, on reprend. D'accord ?
Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup.
Merci Monique, beaucoup. Merci à vous. Allez, dans une seconde, merci, nous allons continuer avec d'autres dossiers. Un dossier inédit, un duplex Hervé Pouchol et 1000 euros à gagner. Soyez prêts, je vous lance ça dans une seconde. Bonne journée sur RTL. Merci d'avoir choisi RTL, 2 heures de direct, de conseils et de duplex. Hervé Pouchol intervient pour l'une d'entre vous dans une seconde sur RTL. RTL, il est 10h03
sur RTL, on vous retrouve Julien Courbet.
Et je remercie moi et surtout, comment s'appelle-t-il Bernard Sabat ? On remercie Nadal, puisque Bernard est rentré à 2h du matin hier soir chez lui, oui, avec du rouge à lèvres partout. Sa femme lui dit, mais tu étais où Bernard ?
J'étais à Roland-Garros.
Oui, et elle a allumé la télé, elle a vu que c'était vrai. Ouais. Bon, dites-moi, comment s'est passé ? Je sais que vous avez passé la soirée avec Maître Moser. Maître Moser.
J'étais à Roland-Garros aussi.
Comment s'est passé,
comment s'est passé
la soirée avec notre ami Olivier Bois ?
Il m'a aimé la nuit, mon légionnaire.
Parce que vous lui avez fait croire que vous étiez légionnaire en plus. Vous êtes capable de dire n'importe quoi pour draguer.
Dans les deux parties de la phrase.
Allez, ça marche. Nous allons, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, avoir une alerte. Apparemment, dans une seconde, que se passe-t-il, Bernard Sabat ?
Sur le cas d'Aurélie, Julien.
Alors, le cas d'Aurélie, Charlotte.
Elle devrait toucher une indemnité de départ de l'éducation nationale de 14 500 euros. Elle n'a eu qu'un peu plus de 7 000 et ça fait 4 ans que ça dure.
Et nous avons téléphoné au rectorat de Montpellier où nous avons eu une gestionnaire qui, dans un premier temps, nous a dit « Je m'en occupe », puis ça a raccroché, Céline.
Exactement, mais Bernard Sabat n'a pas lâché l'affaire. Il a rappelé le rectorat de Montpellier et il a du nouveau.
Alors, que se passe-t-il, Bernard ?
Écoutez, j'ai eu carrément l'assistante de la rectrice de l'Académie de Montpellier, Madame Sophie Béjean, qui ne connaît pas ce dossier, qui ne connaît pas Aurélie et qui m'a demandé tous les détails. Je viens de lui envoyer tout cela par mail. Je pense qu'on aura du nouveau dans les prochaines heures, Julien, voire demain.
Bah, j'espère qu'on en aura dans les prochaines heures, mais j'espère surtout qu'ils vont comprendre qu'on ne peut pas dire à quelqu'un « on va vous donner des sous pour vous aider à monter votre boîte » si 4 ans après, on ne donne toujours pas les sous. Parce que elle, Aurélie, pendant ce temps-là, elle galère en trésorerie. Ce n'est pas possible. Alors, personne, alors celle de la rectrice, évidemment, on n'est pas au courant. Madame Jacinthe Ndiaye nous dit non, mais on s'en occupe. Mais ça fait 4 ans qu'elle n'a pas l'argent. Donc, s'occuper, c'est prendre un chèque et lui envoyer ou faire un virement. Maître Moser, avocate.
Et vous avez d'autant plus raison, Julien, que cette fameuse indemnité de départ volontaire, elle est versée dans deux cas. Soit quand le poste est supprimé, auquel cas elle est versée en une fois, ou alors dans la création d'entreprise en deux fois, et précisément pour que le deuxième versement puisse permettre à l'entreprise de fonctionner. Donc là, c'est un non-sens complet.
Bon, il y a eu quand même un petit point info super sympa. On est tellement contents. On remercie tellement la préfecture des Bouches-du-Rhône. Let's go ! 2 ans qu'elle ne pouvait pas rentrer dans sa maison.
À cause de squatteurs qui s'étaient installés en toute impunité et malgré un arrêté d'expulsion de septembre 2019, ils étaient toujours là ce jour.
La préfecture a bougé dans les Bouches-du-Rhône puisque nous savons maintenant que normalement, les forces de police vont pouvoir rendre sa maison à notre auditrice.
Il y aura une intervention le 13 octobre au matin.
Et dès le lendemain, nous repartirons au combat avec elle car sa maison a été saccagée. C'est apparemment, et on le constatera puisqu'on essaiera d'être là le 13 avec Hervé quand l'expulsion aura lieu. Apparemment, ils ont saccagé complètement sa maison, qui est devenue une décharge à ciel ouvert. Il faudrait qu'il y ait indemnisation. D'ailleurs, un point règle d'or avec cette indemnisation tout de suite.
La règle d'or sur RTL.
Maître Moser.
Effectivement, Julien, notre auditrice va avoir une seconde bataille à mener qui va être celle d'être indemnisée, car la loi Elan prévoit cette indemnisation quand l'État faillit, ce qui est précisément le cas en l'espèce. Donc là, elle va devoir saisir le tribunal administratif, justifier de son préjudice, mais il faut pour ça qu'elle rentre dans sa maison. Et l'État, il y a de nombreuses jurisprudences à ce titre, va manifestement être condamné.
Merci beaucoup. Dans quelques instants, duplex avec vous, Hervé Pouchol. Vous êtes en place ?
Oui, je suis en place actuellement, planqué dans un arrêt de bus. C'est une première.
Ah, bah, très bien. Donc, depuis l'arrêt de bus, vous voyez ce grand immeuble. Vous savez maintenant par où vous allez rentrer ?
Ah oui, oui, parce qu'il est transparent, l'arrêt de bus. Donc, je vois parfaitement où
il doit aller. Parfait. Tout ça nous en dit plus. De quoi s'agit-il ? Quelle intervention pour Hervé Pouchol ?
C'est le cas de Béatrice. Elle est victime d'une arnaque assez sophistiquée qui a mené à une usurpation d'identité et à la souscription de crédit à son insu.
Allez, vous êtes toujours sur RTL avec votre animateur Sigvaris.
Avec Sigvaris, vos jambes sont entre de bonnes mains.
Et dans quelques instants, intervention d'Hervé Pouchol.
Julien Courbet.
RTL.
En ce mercredi 7 octobre, nous n'avons pas oublié que vous avez besoin de nous. Et à partir de maintenant, vous avez 5 minutes, pas une de plus. Donc toutes les chances de gagner 1000 euros, 5 minutes. Comment fait-on, Charlotte ?
On appelle le 3210, 50 centimes d'euros la minute. Ou alors on envoie les lettres RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS maximum.
Allez, c'est parti, 5 minutes, précipitez-vous sur votre téléphone. 5 minutes, moins de gens qui appellent, plus de chances de gagner 1000 euros. Vous envoyez SMS RTL au 74 900, vous appelez le 3210. C'est parti pour une opération duplex. Donc, nous sommes, si je ne m'abuse, avec qui, Charlotte ?
Béatrice.
Avec Béatrice. Comment ça va, Béatrice ?
Ça va.
Eh bien, écoutez, moi aussi. Alors, tant mieux. À bientôt. Passez-moi quelqu'un qui ne va pas bien, s'il vous plaît. Béatrice, vous êtes dans quelle région ?
Les Deux-Sèvres.
Dans les Deux-Sèvres, à la fois Mongeau. C'était galère, d'ailleurs, dans ce département. Les roues sont étroites avec le camping-car, Céline, cet été.
Et la Fomongeau, c'est une ville qui est très bien placée puisqu'on est à 15 km au sud-ouest de Niort. On est aux portes du Marais Poitevin et à 50 minutes de voiture de La Rochelle et des plages du Châtelaillon et de Fouras.
En 2012, vous avez rencontré le père, bien sûr. En 2012, vous achetez des panneaux solaires 31 000 euros, Béatrice, via un organisme de financement. Les remboursements se chiffrent à 260 euros par mois sur 16 ans. C'est tout à fait dans votre budget. Mais en septembre 2017, alors que vous n'avez rien demandé, une entreprise va vous expliquer qu'elle reprend la garantie décennale et l'entretien des panneaux solaires suite à la liquidation de celle qui s'était occupée de l'installation. Cette même entreprise en profite pour vous proposer de baisser vos mensualités de 42 euros par mois en vous faisant gagner au passage un an. Alors, je suppose, Béatrice, que lorsque l'on vous dit ça, vous vous dites c'est le Père Noël qui a tapé à ma porte.
Un petit peu, oui.
Ben oui, intéressé, vous remettez toute une série de documents personnels, puis quelques semaines plus tard, vous recevez coup sur coup deux enveloppes. L'entreprise vous demande de ne pas les ouvrir et de les lui renvoyer. Ce que vous allez faire, Béatrice ?
Ah oui, tout à fait.
Là, pour l'instant, on est dans un film américain. Franchement, je vous le dis tout de suite, moi-même, je commence à avoir la chair de poule. Vous allez recevoir des enveloppes, mais surtout, vous ne les ouvrez pas et vous les renvoyez. Que contiennent ces enveloppes ? Vous vous exécutez sans trop vous poser de questions. Quelques jours après, votre compte est crédité de combien ?
13 000 euros.
De 13 000 euros. Vous renvoyez l'argent à l'entreprise comme elle vous le demande pour ouvrir un nouveau crédit. Sauf que vous recevez à nouveau 9 000 euros cette fois-ci de la part d'un autre organisme. Alors JB, on va se calmer un peu parce que là, ça va devenir limite trop compliqué. Voici donc une dame qui a payé 31 000 euros pour avoir des panneaux. Une société lui dit, la société qui vous a vendu les panneaux a liquidé, on reprend le dossier et on va vous faire baisser les mensualités. Pour cela, vous allez recevoir de l'argent que vous allez nous renvoyer.
Oui, c'est bien ça. C'est de l'argent que vous allez renvoyer. Alors, on lui a dit de ne pas ouvrir les enveloppes surtout. Alors, on peut imaginer que dans ces enveloppes, il y avait peut-être des contrats à signer. On peut peut-être imaginer que ces contrats ensuite ont été réceptionnés. Et peut-être, on va le raconter ensuite, mais peut-être qu'il y a eu des fausses signatures ensuite.
car pour le coup, elle va commencer à sentir qu'il y a un loup. Enfin, elle l'a senti. Elle a déjà payé deux fois. Elle a déjà deux fois reçu de l'argent. Elle se dit, c'est pas possible. Vous vous rendez vite compte que des crédits ont été pris en votre nom, en plus du tout premier qui n'a jamais été arrêté. Donc, elle continue à payer pour les 31 000 euros. Mais maintenant, elle va devoir rembourser les 13 800 et les 9 000. La machine va s'emballer. Alors là, c'est la catastrophe absolue. Fiché à la Banque de France. Au bout d'un an et plusieurs relances, d'huissier, le premier organisme semble abandonner les poursuites. En revanche, le deuxième organisme ne veut rien entendre et continue de vous ficher. Donc, grosso modo, JB, ils se sont servis de ces papiers. Pourquoi ? De prendre des crédits en son nom, c'est ça ?
Exactement.
Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, Maître Moser, ces gens-là se sont présentés à un organisme de crédit et ont usurpé l'identité de Béatrice, imité sa signature, et l'organisme de crédit n'a jamais eu Béatrice de l'autre côté du bureau.
Absolument, c'est exactement cela qui s'est passé et ça pose un problème majeur, Julien. C'est que l'article L561-5 du Code monétaire et financier nous dit que la première obligation de la banque consiste à vérifier l'identité du client.
Il y a je suppose qu'il y a des jurisprudences, en tout cas il y a des arrêtés de la Cour de cassation.
Absolument, j'ai là sous les yeux un arrêt de la Cour d'appel de Paris, très récent, 26 octobre 2017.
On va vous mettre le jingle parce que vous êtes avocate et c'est grâce à vous que nous avons le biscuit pour pouvoir traiter les dossiers.
Et tout de suite, sur RTL, l'article de loi qui va vous donner raison.
On prend un crédit en votre nom, vous ne vous êtes déplacé nulle part, on a imité votre signature, qui a raison, qui a tort.
C'est la banque qui a tort. Je vous ai cité tout à l'heure l'article L561-5 du Code monétaire et financier. Je vous ai parlé d'une obligation de vigilance. Mais mieux, Julien, cette obligation de vigilance, elle a trois niveaux. Niveau normal, niveau allégé ou niveau renforcé. Et typiquement, le niveau renforcé, c'est quand le client n'est pas présent aux fins d'identification. On est en plein dedans. Et la jurisprudence, elle ne s'y trompe pas. J'ai sous les yeux, vous le disais-je il y a un instant, un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 octobre 2017 qui a condamné un organisme de crédit pour avoir failli à son obligation de vigilance. Il y a eu des dommages et intérêts qui ont été versés, 4000 euros en l'occurrence.
La messe est dite. Alors, donnez-nous le nom, s'il vous plaît, JB, de l'organisme de crédit qui lui a dit oui, on a été trop léger, on a donné un crédit à des gens que nous n'avons pas vus. De qui s'agit-il ? Nous allons rembourser.
Il s'agit de CTLM.
Eh bien, nous applaudissons CTLM, mesdames et messieurs, car... Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Tout de suite, ils disent, attendez, c'est vrai, on aurait dû vérifier, on n'a pas vérifié. Ce n'est pas à Béatrice de payer les pots cassés. Et il y a un deuxième organisme qui, lui, ne le dit pas. JB, donc on ne va pas encore dire de qui il s'agit, puisque je crois qu'Hervé Pouchol va intervenir dans quelques instants. On est d'accord ?
Oui, alors ce que je peux vous dire, moi, c'est que ce n'est pas une première. Nous avons eu un cas presque similaire la saison dernière. Il s'agissait d'un crédit sur une pompe à chaleur. Un faux courtier avait manigancé exactement de la même manière pour prendre deux crédits à cet auditeur prénommé Olivier. L'un des deux organismes de financement ne reconnaissait pas l'usurpation d'identité et gardait Olivier fiché à la Banque de France. Et justement, cet organisme de financement est le même.
Ah, et alors
et le cas s'était réglé à l'époque.
Bon, alors voyez que, Béatrice, on a un petit peu d'espoir. Un petit peu seulement, car c'est Hervé Pouchol qui s'occupe de vous. Et ça peut faire complètement basculer un dossier. Donc Hervé, dans une seconde, vous allez donc intervenir. C'est un organisme de crédit qui dépend lui-même d'une énorme banque. Je vous demande maintenant de vous préparer à franchir combien de mètres entre vous et la porte ?
43 mètres.
43 mètres. Vous avez un peu d'embonpoint suite au confinement. Il vous faudra combien ? Une vingtaine de minutes pour pouvoir les faire ?
Non, mais alors là, je suis prêt. Hein.
Ah bon, d'accord. Alors attention, une petite pause. Et mesdames et messieurs, Hervé Pouchol, avec, on le sait, son doigté, sa façon de négocier, va rentrer dans l'organisme de crédit et tenter d'obtenir et d'avoir un interlocuteur pour aider Béatrice, qui se fait plumer actuellement injustement. Vous êtes sur RTL. Opération duplex pour aider Béatrice.
Elle est victime d'une arnaque qui a mené à une usurpation d'identité. De potentiels escrocs ont souscrit des crédits à son nom et l'organisme de financement ne reconnaît pas l'usurpation.
Alors il y a un deuxième organisme qui a reconnu, mais attention, j'ai fait applaudir, ils ont défiché immédiatement, mais malgré tout, ils lui ont pris un petit peu d'argent qu'il faudra rembourser JB.
Oui, tout à fait, il y a eu 526 euros exactement qui ont été versés. Et Béatrice demande à ce qu'il y ait un remboursement déjà depuis 2 à 3 ans et elle ne l'a toujours pas.
Oh, Hervé Pouchol, vous êtes en duplex, c'est parti pour l'intervention, top chrono.
Oui Julien, je suis à Nanterre devant le siège de cette société de recouvrement, filiale d'une très très grande banque. Particularité, il ne me laisse jamais rentrer d'habitude. Deuxième détail, il y a une grande porte tambour. La porte tambour, c'est une porte tourniquée. J'arrive dans l'accueil, il y a le restaurant Myself à gauche. il y a la sécurité à droite. Je passe très rapidement et je vais m'adresser à l'hôtesse qui est en train de discuter avec une dame actuellement. Et là, ça va être difficile de la déranger car elle ne fait absolument pas attention à moi. Bonjour madame, pardonnez-moi, j'en ai pour une petite seconde. Nous sommes en direct sur RTL et j'aurais souhaité parler à monsieur Ossoniski, s'il vous plaît. C'est à propos d'une dame qui est l'une de vos clientes et qui est victime d'une usurpation d'identité. Et elle est fichée Banque de France. Est-ce que vous pouvez le prévenir ou quelqu'un du service recouvrement, madame ? Alors, comme je ne vois pas ses lettres bouger car elle a un masque, je ne sais absolument pas ce qu'elle est en train de
faire. Est-ce qu'il y a un son qui sort ? Parce que c'est peut-être pas... Il y a deux indices, c'est soit les lèvres alors, qui bougent, soit un son qui sort.
Alors, elle vous écoute.
Ah, bonjour madame, oui. Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Pardonnez-moi de vous déranger, nous avons besoin d'avoir quelqu'un pour aider une auditrice qui est dans la panade. La pauvre s'est fait usurper son identité, c'est reconnu. Et aujourd'hui, la Société Générale l'a fiché Banque de France. Il faut, enfin en tout cas, l'organisme Franc Finance. Et il faut vraiment l'aider. Est-ce que vous pourriez juste nous trouver un interlocuteur, s'il vous plaît ? Peut-être même la communication, si vous le souhaitez.
Je suis désolée, monsieur, mais... Moi, si vous n'avez pas rendez-vous avec une personne chez Franc Finance, je ne peux pas vous les appeler.
Vous n'avez pas le droit d'appeler sur une ligne interne la communication ?
Non, du tout.
Oh, dommage. Alors, il va rester là et nous allons nous appeler donc peut-être à la communication pour qu'il descende voir Hervé. Merci mademoiselle, merci beaucoup. D'accord. Alors Hervé, vous restez à côté. Nous essayons d'appeler donc tout de suite, s'il vous plaît, le standard. Alors pas le 08 parce que ça va être une plateforme. Essayons d'avoir la chargée de dossier peut-être, s'il vous plaît. Céline, le service recouvrement, enfin quelqu'un ou peut-être tout simplement le cabinet du président. Nous allons le demander. C'est parti, on y va, on appelle. On y est ?
Oui.
Allez, ça y est, ça sonne.
Ça va sonner.
Et nous allons avoir Franc Finance en ligne. Alors, vous faites quoi finalement ? La plateforme ou non ?
Non, j'essaie de joindre Samira.
Alors, on y va. Samira va-t-elle répondre ? Hervé Pouchol attend désespérément. Ça va répondre une seconde à l'autre, je l'espère. C'est une ligne directe, mais qui nous basculera, je pense, sur le standard. Pour l'instant, il ne se passe rien. Alors, vous allez vous en occuper. Et Bernard et Céline, vous avez le numéro de la chargée de dossier du service client, du service recouvrement de tout le monde. Il me faut un interlocuteur dans quelques instants. Anne-Claire Moser, s'il vous plaît, je vous écoute.
Oui, on rappellera que l'usurpation d'identité est un délit pénal et que c'est un véritable fléau. 300 000 personnes victimes d'usurpation d'identité l'an dernier, Julien.
Bien. Je rappelle également à tous les organismes de crédit qu'il faut assumer le fait de distribuer des crédits comme ça sans vérifier pourquoi pas, mais assumer derrière que n'importe qui puisse en prendre un et que les usurpations maintenant avec les hackers, vous imaginez que c'est de la rigolade de prendre des crédits aux uns et aux autres. Alors, soit vous décidez de ne plus rembourser, mais dans ces cas-là, vous recevez les gens dans le bureau et vous verrez bien si vous avez Béatrice en face de vous ou pas. Soit vous dites on les distribue comme ça, on fait du chiffre à la légère, mais il y aura des pépins, mais dans ces cas-là, on assume.
Et c'est précisément pour cela, Julien, qu'ils ont une obligation renforcée quand les personnes ne sont pas présentes.
Allez, c'est parti.
Assumer.
Pour Franc Finance, je veux du nouveau avec Bernard et Céline. Vous ne bougez pas, Béatrice, je vous retrouve dans quelques instants. J'ai la chance d'avoir autour de moi une équipe de femmes très compétentes et je sais que ce dossier va avancer puisqu'il y a Céline, Charlotte, Anne-Claire. Bien sûr, ce sont les meilleurs, je tiens à le dire, et aucune radio n'a un niveau de compétence comme celle-ci. Quand je peux faire un compliment, je le fais bien évidemment. Je sais que ça vous a touché.
Oui, vous êtes quoi, un petit poulet ou...
Ouais, je suis le coq de la basse-cour. Moi. Allez, qu'est-ce que nous écoutons maintenant ? Ah, mais c'est magnifique, c'est Benjamin Biolay, comment est ta peine ? Hervé Pouchol qui attend devant Franc Finance, sans interlocuteur, Benjamin Biolay nous en dit plus.
J'ai lâché le téléphone, comme ça, en ce beau matin d'automne, pas froid, ça ressemblait à l'été, sauf que tu n'y étais pas. Regardez le ciel d'en bas, indécis, voulais-je y monter ou pas? Mais savais que j'étais fait comme un rat. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. voudrais qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient, s'en va. J'ai posé le téléphone comme ça. Je peux jurer avoir entendu le glas. J'aurais dû te libérer avant que tu me libères. Le bilan carbone trois fois. Puis parler de ta daronne sur un ton que tu n'aimerais pas. Tu ne le sauras jamais car tu ne m'écoutes pas. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. À vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va.
Hervé Pouchol, vous êtes en duplex pour le cas de Béatrice qui s'est fait usurper son identité. Aujourd'hui, des organismes de crédit l'ont fiché. Où en êtes-vous chez Franc Finance?
Écoutez, je suis actuellement avec l'hôtesse d'accueil qui vous a dit que personne ne pouvait intervenir. Mais finalement, en discutant avec cette charmante personne qui a des yeux absolument magnifiques, elle est en train d'actuellement de pouvoir joindre différents services et j'espère avoir quelqu'un qui va venir à ma rencontre. Je l'espère en tout cas.
À tout de suite avec Béatrice. Un nouveau cas va arriver ou un cas qui bloque, nous essayons de débloquer car nous ne lâchons jamais l'affaire.
On va revenir sur le cas de Gabrielle. Elle est handicapée et elle vit avec deux enfants dans un appartement au troisième étage. Il faut la reloger.
Bien sûr, nous avons appelé la préfecture des Hauts-de-Seine. C'est Ne m'appelez plus jamais France qui revient sur l'antenne d'RTL. A tout de suite mes amis, bonne journée. Avant de revenir sur Gabriel, handicapé, et ses deux garçons, dont le plus jeune est handicapé, nous revenons une nouvelle fois sur l'histoire des crédits, car il pourrait y avoir une alerte, Charlotte.
Elle a été victime d'une arnaque au crédit qui a mené à son fichage à la Banque de France à cause d'un organisme de crédit qui ne reconnaît pas qu'elle s'est fait usurper son identité.
Hervé Pouchol, en direct et en duplex sur RTL, est-ce qu'il y a du nouveau ?
Oui, il y a du nouveau. Je suis actuellement avec une personne du service contentieux qui fait la tête parce que je parle d'elle et qu'elle m'a dit qu'elle ne voulait pas passer à l'antenne. Rassurez-vous, madame, je ne vais pas vous interviewer, je ne vais pas amener mon micro vers votre bouche, mais elle est en train de discuter, mais elle est vraiment très, très remontée, très en colère, en train de me dire « je ne veux pas intervenir, je ne
Alors, dites à cette dame, écoutez-moi, dites à cette dame qu'elle appelle Béatrice ou qu'elle nous passe quelqu'un qui nous explique comment on peut passer des crédits sans se déplacer. Oui. Que dit-elle?
Alors,
que se passe-t-il?
Je suis en train de lui donner le dossier. Finalement, elle me dit qu'elle n'a jamais dit qu'elle ne voulait pas passer à l'antenne. Ah. Donc, alors, je vais vous la passer, alors. Ah ben non, finalement, elle me dit que non. Finalement, elle n'a pas envie non plus.
Alors, écoutez, ce que je vous propose, c'est de calmer
très compliqué avec cette
calmer la situation, montrez-lui le dossier, expliquez-lui qu'il y a des gens qui sont venus chez Franc Finance, qui ont pris des crédits avec des photocopies de cartes d'identité de Béatrice, mais comme ils ne vérifient pas l'identité de la personne à qui ils donnent le crédit, aujourd'hui, Béatrice se retrouve plumée. Et expliquez-leur également que nos amis de CTLM ont fait la même chose, mais qu'eux se sont dit c'est injuste et qu'ils n'y sont pour rien. Voilà, c'est tout et on se reparle dans quelques instants. Okay.
Ça marche.
Car, alors, c'est pas une règle d'or, hein, c'est vraiment le conseil de base, mais n'envoyez jamais de photocopie de carte d'identité quand vous n'êtes pas sûr à 200% du destinataire.
Eh oui, c'est effectivement la base de la base, parce que l'usurpation d'identité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un véritable fléau. L'argent facile, c'est un fléau aussi, et tout ça combiné, eh bien, c'est une catastrophe. Ne jamais envoyer ces papiers d'identité.
En plus, si on obligeait les gens pour des crédits et une certaine somme à se déplacer, on pourrait demander la véritable carte d'identité, donc déjà ça aurait réglé le problème puisque Béatrice ne l'a pas donné, elle a donné qu'une photocopie. Deux, il y a des caméras partout dans les bureaux, dans les banques, on verrait la tête de celui qui est en train de voler Béatrice, ça réglerait bien des problèmes, mais comme on veut faire du chiffre, eh bien on accepte tous les papiers, n'importe quel, vous savez c'est facile, hein, vous avez un collègue qui va aux toilettes, pendant ce temps-là vous prenez son sac, vous prenez sa carte d'identité, vous faites une photocopie et ça ne veut pas dire pour autant que vous avez été négligent, on ne va pas se déplacer dans les bureaux n'importe où à chaque fois avec tous ces papiers.
Et c'est exact Julien, et justement on voit bien dans la jurisprudence que les juges sont très attentifs aux moyens dont les banques ou les organismes de crédit se sont dotés pour justement eh bien, se prémunir de tout cela. Il y a du boulot. Hein.
Il y a du boulot qui ? Il y a du boulot Sigvaris.
Avec Sigvaris, vos jambes sont entre de bonnes mains.
Sachez-le. Nous allons donc peut-être revenir maintenant sur le cas de Gabrielle, s'il vous plaît, Charlotte.
Elle devrait être relogée d'urgence depuis le 19 février 2019, donc ça fait un an et demi que ça dure. Elle vit dans 26 mètres carrés avec deux enfants, dont un est handicapé.
Et pourquoi est-elle dans notre rubrique ?
Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé.
Car Gabrielle est handicapée, son fils est handicapé, a besoin d'un appartement adapté, puisque là, elle doit se taper je ne sais combien d'étages avec son fils. Elle a attaqué, elle a gagné. L'État est condamné, vous avez le jugement sous les yeux, Maître Moser, pour ceux qui n'étaient pas là, l'État a été condamné à lui donner un appartement adapté. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît,
oui,
Claire Moser?
Oui, effectivement, Gabrielle, elle est handicapée, elle a un enfant handicapé, elle a donc droit de bénéficier des dispositions de la loi du 5 mars 2007, loi Dalo, qui instaure un droit au logement opposable. Et moi, j'ai presque envie de vous piquer un petit coup de gueule aussi, Julien, d'une règle de droit.
Allez-y.
Ah bon, non, parce que cette loi Dalo, elle fait peser sur l'État non plus une obligation de moyens dans le logement, mais une obligation de résultat. Et elle s'adresse à des personnes qui en ont besoin, et notamment des personnes qui sont logées dans des gourbis. Là, on a 26 mètres carrés, avec des enfants mineurs et des personnes handicapées. Et cette loi permet, une fois que le droit Dalo est reconnu, et on sait que pour Gabrielle, c'était en février 2019, faut avoir ça en tête, une fois que ce droit est reconnu, le préfet, il doit proposer un logement dans les 6 mois, Julien.
Ouais.
Et s'il ne le fait pas, alors, eh bien, le citoyen français peut saisir la justice. C'est ce qu'elle a fait, et elle a, c'est la question que vous me posiez, une décision qui ordonne au préfet de la reloger, et ça aurait dû être le cas depuis le 1er août 2020.
La préfecture des Hauts-de-Seine a été appelée hier, il ne s'était pas passé grand-chose. Charlotte, nous devions également appeler, puisque c'est eux qui apparaissent dans le jugement, le ministère de la cohésion des territoires.
Oui, j'ai rappelé la préfecture parce que c'est effectivement eux qui ont été condamnés à trouver un logement à Gabrielle. Et j'ai eu quelqu'un du service communication qui m'a garanti de nous apporter une réponse dans les meilleurs délais.
D'accord.
Ce matin, je n'ai pas encore de réponse, mais j'espère que d'ici 24 heures, ça sera le cas.
Il y a aussi le secrétariat aux handicapés qu'on cherche de jouer pour plein de dossiers, mais qui ne nous répond jamais. Il faut dire les choses comme elles sont. Est-ce que ça a été le cas ?
Alors, c'est vrai. J'attends déjà un retour pour un cas d'un monsieur qui a une maison qui est inaccessible à cause d'un chemin communal qui n'est pas entretenu. J'attends toujours une réponse et je n'en ai pas. Pour ce dossier-là non plus. En revanche, on a aussi contacté le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, devenu le ministère de la Transition écologique et du Logement, parce qu'en fait, sur le jugement, ils n'étaient pas condamnés, mais ils ont été notifiés quand même de la décision. Et il était écrit sur la décision de justice qu'il devait pourvoir à l'exécution de la décision. Donc j'ai pareil, envoyé le dossier à la communication et j'attends aussi un retour.
Voilà où nous en sommes, Gabrielle, ce matin. Nous appelons tout le monde et nous allons revenir chaque jour avec vous car l'État vous doit un logement. Il y a un secrétariat à la condition et au handicap, donc il faut vraiment maintenant bouger. On doit pouvoir trouver des solutions. On ne peut pas vous laisser comme ça. Je rappelle que vous habitez à quel étage ?
Troisième étage.
Et vous avez deux garçons dont le plus jeune est handicapé ?
Oui.
Donc voilà, elle doit monter ces trois étages. On doit pouvoir trouver quand même une solution, surtout que l'État a été condamné. Un dernier mot, Anne-Claire Moser.
Justement, c'est sur la condamnation de l'État. J'ai sous les yeux le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative française, qui a condamné l'État sous astreinte. Et mieux, Julien, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France. La France a été condamnée parce que justement, elle ne rend pas effectif le fameux Dalo, le droit au logement opposable.
Ce Dalo, vraiment, il va falloir qu'on aille. Non, mais qu'on s'en occupe parce que vous n'arrêtez pas d'en parler. Et s'il le faut, nous irons chanter devant les ministres.
Sweet, sweet, Fantadalo, oh, oh, Fantadalo, sweet, sweet, Fantadalo, oh, oh, Fantadalo, où ils sont les appartements, hein, Fantadalo, c'est bien bon le canelois si personne n'a des appartements, hein.
Alors voilà, on est capable de le faire de différentes façons, juridiquement comme nous l'avons vu avec Maître Moser et plus fantaisiste avec moi. Gabrielle, je m'en occupe, ne vous inquiétez pas, on ne lâche rien.
Merci
on rappelle
beaucoup.
À l'État quand même que c'est bien de pouvoir s'occuper de gens comme ça, surtout quand il est condamné. Et ça fait quand même beaucoup là maintenant. Hein. Je rappelle qu'il y a, et on y reviendra tout à l'heure, l'État qui arrête de payer des loyers et qui va amener à la banqueroute des Français parce que l'État ne paie pas le loyer. Là, l'État qui est condamné a donné un appartement à Gabriel avec son fils handicapé et qui ne lui donne pas. Il y a tout à l'heure, on a vu également que le rectorat doit 6 mois, ou en tout cas une prime, à une ancienne enseignante et qu'elle ne lui donne pas depuis 4 ans. Il faut qu'il se passe quelque chose, là.
Oui, il faut qu'il se passe quelque chose, parce que ce serait bien que finalement l'État arrête d'être condamné et que l'argent, eh bien, serve à autre chose qu'à payer des condamnations, mais plutôt, je ne sais pas, à faire des logements, par exemple.
Mais bien sûr! Merci. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de réponse, c'est pour ça que je n'ai rien d'autre à dire. Charlotte, 2 questions. La première, comment est ta peine ? La mienne est comme ça. Et ensuite, 2e question, qu'est-ce qu'il va y avoir dans quelques instants ?
Première question, comme la tienne. Et 2e question, on va revenir sur le cas de Laurent dont vous parliez. 95 jours que les loyers ne sont pas payés par l'État pour ces petites maisons occupées par la gendarmerie.
Je ne peux pas vous en dire plus sur la tenue de Charlotte car c'est privé. Mais je peux vous dire qu'elle a une moustiquaire sur les épaules. À vous d'imaginer la suite.
Vous n'avez aucun goût.
Vous êtes sur RTL. Une alerte sur Béatrice qui, la pauvre, est fichée parce qu'on a pris des crédits à son nom. Elle a fait une petite bêtise, enfin une bêtise, elle a envoyé des papiers en photocopie.
Et on lui a usurpé son identité. 2 crédits ont été souscrits à sa place et un des organismes de crédit l'a fiché à la Banque de France et ne veut pas reconnaître l'usurpation.
Cet élème a reconnu qu'effectivement ils avaient pris le crédit sans vérifier l'identité, donc ils ont remboursé, même s'il reste un petit peu d'argent, on y reviendra. Et il y a le 2e organisme de crédit, Franfinance, qui lui la laisse fichée. Où en est-on, Hervé Pouchol ?
Vous avez bien fait de m'envoyer, je me suis bien fait engueuler, mais pour la bonne cause. En fait, cette dame qui est venue à ma rencontre, déjà, elle a eu la gentillesse de descendre, elle était en conversation téléphonique, elle a arrêté cette conversation pour venir me répondre. Il est évident que quand on arrive sans prévenir avec un micro RTL, ça surprend, et cette dame s'est un petit peu énervée. Au bout d'un moment, elle s'est vraiment, vraiment calmée, et puis elle a compris qu'on était là pour essayer d'aider Béatrice. Elle m'a fait une promesse et je vais la croire. Elle m'a dit, monsieur, vous aurez des nouvelles de ce dossier d'ici vendredi. Voilà la bonne nouvelle, enfin je l'espère en tout cas. D'ici vendredi, on aura des nouvelles de Franfinance.
Et nous acceptons ce dossier. Je rappelle, ils vont réécouter sûrement cette émission en podcast. Voici la question que nous posons. Est-ce que Béatrice est rentrée dans un bureau de Franfinance ? Est-ce que vous l'avez vue prendre un crédit, ami de Franfinance ? La réponse est...
Non.
Est-ce qu'elle a vraiment fait une demande de crédit avec sa signature ? La réponse est non. Il y a des gens qui ont photocopié sa carte d'identité, qui sont venus, qui ont réussi à vous prendre, et ils sont forts d'ailleurs, hein, une belle somme d'argent. Est-ce qu'elle doit être punie pour cela ? La réponse est également non. Alors voilà, c'est à ces questions que nous voulons des réponses. Quelque chose à rajouter, s'il vous plaît ?
Non, Julien, vous avez tout dit.
Eh bien, tant mieux. Bravo en tout cas, Hervé Pouchol. Vous voyez, quand on a 2 négociateurs, c'est vrai que les chances avancent bien. Vous ici en studio, Bernard Sabat, lui là-bas en extérieur. C'est vraiment la Dream Team.
C'est moi Pouchol, c'est moi Sabat, c'est toi le gros et moi le petit. C'est moi Pouchol, c'est toi Sabat, et nous sommes de bons amis. Et voilà,
et les dossiers avancent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n'y a pas de secret, c'est comme une équipe de foot. Vous prenez le Paris Saint-Germain, Neymar, Mbappé, ça marque. Vous prenez une équipe qui n'a pas d'avance, ça ne marque pas. Béatrice, vous me faites confiance, on se reparle vendredi ?
Oui, il n'y a pas de problème.
Alors je vous dis à vendredi matin sur l'antenne d'RTL. Nous allons, si vous le voulez bien, refaire encore un point Ne m'appelez plus jamais France.
Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber.
Celui-là, c'est le plus hallucinant de tous pour moi. Parce que quand l'État qui est là pour améliorer le quotidien des Français... Et qu'en fait, il fait le contraire, il les plonge dans une détresse financière, là, on ne comprend plus. L'histoire, pour ceux qui ne l'ont pas écoutée, mais on y revient chaque jour, est hallucinante.
Laurent et 32 autres personnes investissent dans l'achat de 33 maisons construites pour y loger des gendarmes. Tout se passe bien pendant 15 ans, un loyer est fixé, il est versé, et puis au bout de 15 ans, c'est-à-dire là, il y a 3 mois, le bail doit être renouvelé. Il ne l'est pas parce que l'État, les finances publiques qui payent les loyers, décident de baisser de 30% le montant des loyers. Évidemment, les copropriétaires refusent, donc ils disent « bon allez, on cède sur 15 ». Les copropriétaires refusent, ils ne veulent pas voir leur loyer baisser. Ça bloque la situation et depuis 3 mois, les loyers ne sont tout simplement plus payés.
C'est-à-dire qu'ils pourraient partir. Ils ont tout à fait le droit à la fin du bail de dire « on enlève les gendarmes, tant pis pour vous, eux ils retrouveront d'autres locataires ». Mais non, ils disent « non seulement on va rester », mais on ne va plus payer les loyers. Et pourquoi c'est une catastrophe? Parce que ces gens-là n'avaient peut-être pas les moyens d'acheter cette petite maison, mais ils l'ont achetée parce qu'on leur a dit c'est l'État qui va payer les loyers, voilà le montant du loyer, ils ont calculé leur crédit, ils rajoutent, je crois, un petit peu chacun de leur poche. Mais là, maintenant, l'État fait pression en se disant ils finiront par craquer. Donc à un moment donné, ils vont accepter notre proposition parce que sinon, ils vont à la banqueroute. C'est une histoire de dingue, c'est pour ça que nous y revenons chaque jour. Donc ça fait aujourd'hui, je ne sais plus combien de jours, 95 jours que Laurent et 32 autres personnes n'ont plus leur loyer payé. Et nous invitons Frédéric Faguet, direction départementale des finances publiques de la Dordogne, et l'État à bien vouloir faire quelque chose, parce que les banqueroutes vont arriver, on va en parler tous les jours sur l'antenne d'RTL, et là ça sera catastrophique.
Oui, puis ce qui est incroyable dans ce dossier, comme l'a dit la personne qu'on avait hier, c'est un programme qui a été survendu, et l'État non seulement ne paie pas les loyers, alors qu'elle soit pas d'accord sur le montant du loyer à venir, c'est une chose, mais ça ne l'exonère nullement du paiement des loyers en cours, et mieux, ou pire, devrais-je dire, les charges ne sont plus payées depuis le mois de janvier 2020, y compris les taxes d'ordures ménagères, etc. Et là, c'est quand même le chat qui se mord la queue.
Sur les taxes ménagères, qu'est-ce qu'on avait un petit débat, c'était peut-être pas complètement à eux de les payer, on ne sait pas.
Il y avait une clause dans le bail qui prévoyait que en cas de location à l'État, donc là c'est le cas, la taxe d'ordures ménagères n'était pas due par les locataires.
Voilà, d'accord, donc c'est à l'État de les payer.
Donc ce n'est pas à l'État de les payer a priori, il y avait une clause dans le bail qui était assez floue là-dessus.
D'accord, bon, en fait, je vais vous dire, c'est même pas un problème.
Là, mais dans
on est sur
les
loyers, d'accord.
Et là, il y a des charges à payer, les charges de l'année 2018-2019 ne sont pas payées, et le montant total pour l'instant qui est dû, c'est quand même 71 000 euros.
Et on se retrouve demain pour en reparler jusqu'à ce que l'État bouge et ne plombe pas ces gens qui sont affolés, qui se disent mais comment vais-je faire pour payer mes loyers. Un autre cas arrive dans quelques instants, il y aura une nouvelle fois 1000 euros à gagner. Vous êtes sur RTL, nous faisons feu de tout bois pour vous, comme chaque matin. RTL. Et voici le fameux qui veut les 1000 euros. C'est reparti, 5 minutes, pas une de plus pour gagner 1000 euros. Autrement dit, peu de temps, moins d'appels, plus de chances de gagner.
Vous appelez le 3210, 50 centimes d'euros la minute, ou alors vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS maximum.
Allez, précipitez-vous, 5 minutes, pas une de plus, tout de suite, 3210, tout de suite, ou vous envoyez par SMS RTL au 74 900. Il a mis du temps pour le préparer, mais ça y est, il est là, le nouvel album de Vianney, avec cet extrait « Beau papa » sur RTL.
J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Y'a pas que les gènes qui font les familles, des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas. Jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi j'avoue qui me suis invité dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, d'un jour adopter en vérité nue. C'est toi qui l'as fait, y a pas que les gènes qui font les familles du moment qu'on s'aime. Et si l'averse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'averse nous touche, toi et moi, prends ma main, dis, prends-la.
Belle chanson de Vianney, beau papa sur RTL. Voici maintenant l'arnaque en temps réel avec JB. JB, où partons-nous ce matin ?
Nous vous emmenons dans la ville rose à Toulouse où nous allons parler de l'arnaque au rétro.
Je me demande si vous n'avez pas connu quelqu'un parce que vous êtes resté quand même 3 jours cet été avec votre camping-car, Céline, à Toulouse.
Et là-bas, j'ai appris à faire la croustade aux pommes. C'est la spécialité de Toulouse. C'est une sorte de gros chausson aux pommes. Le tout arrosé de beurre et d'armagnac. C'est succulent.
Mais bien mangé quand même.
Oui, j'adore.
Alors, JB.
La dépêche du midi rapporte qu'un couple d'octogénaires toulousains a été victime de la fameuse arnaque au rétroviseur. Alors qu'il quittait le parking d'un supermarché, ce couple a entendu un bruit de tôle froissée. Un homme en colère a accusé ces personnes âgées de lui avoir arraché son rétroviseur alors qu'il s'agissait en réalité d'un jet de cailloux sur le véhicule. Cet individu de 41 ans a proposé à l'octogénaire d'appeler son assurance pour régler le litige. Grand seigneur, il a lui-même tapé le numéro, sauf qu'il a joué un complice planqué derrière un buisson qui a indiqué qu'un accord à l'amiable serait préférable. En somme, qu'il vaudrait mieux payer 700 euros tout de suite plutôt que 1500 euros de franchise. Résultat des courses, la pseudo-victime a conduit la personne âgée jusqu'au premier distributeur, mais des policiers ont été témoins de la scène. Ils lui ont tout de suite passé les menottes.
Non, mais vous entendez ça, l'équipe ? Alors, s'il vous plaît, Anne-Claire Moser, dites-nous un petit peu ce que la loi prévoit dans ce cas.
Eh bien, ce que la loi prévoit, c'est de condamner ces personnes qui se livrent à des abus de faiblesse. Ils passent en comparution immédiate la semaine prochaine, ces gens-là. Et sans avoir de boule de cristal, je pense qu'ils seront condamnés. On ignore s'ils sont primo-délinquants ou récidivistes. Mais en tout cas, il faut condamner ces gens. Ce sont des arnaques qui sont éculées et qui, pour autant, continuent de fonctionner. C'est un pur scandale.
Est-ce que votre compagnon est d'origine portugaise ?
Absolument pas.
Parce que vous avez dit en comparution immédiate. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, peut-être qu'à force de passer son temps avec lui... Elle s'est mise à parler comme ça. On réécoutera bien évidemment, car vous le savez, je n'hésite pas à mettre en valeur mon équipe. C'est Eric qui va arriver dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Eric, bonjour.
Eric va arriver, je vais le contacter dans 2 petites minutes.
Vous aviez complètement oublié que nous étions en direct en train de faire une émission de radio et tout d'un coup vous avez dit mais nom d'un chien, c'est vrai que j'ai un travail à faire. Alors faites-le s'il vous plaît et je vais rappeler que Eric gère, enfin je ne vais pas vous le rappeler puisque vous ne le savez pas, Eric gère une auto-école, il a voulu changer son opérateur téléphonique après un démarchage commercial, mais au lieu d'avoir une connexion rapide, internet est lent et coupe régulièrement. Et le résultat, c'est que les élèves ne peuvent pas suivre la formation du code correctement. Ça va se passer dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Il y aura bien sûr les infos, ce cas inédit. Nous allons tenter de débloquer aussi des situations. Et il y aura les 1000 euros que je vais vous offrir. Tout ceci sur RTL dans le 9h30, 11h30. À tout de suite. 9h30, 11h30, RTL en direct. Merci d'être avec nous sur RTL. La dernière demi-heure, le Money Time, où il pourrait y avoir des dénouements positifs au dossier que nous avons traité, plus un cas inédit. Olivier Bois, vous allez faire les infos dans quelques instants. Je sais qu'à la fin de votre flash, vous allez dire « Nous retrouvons Julien Courbet, ce n'est plus mon nom d'antenne ». Je vous demande d'ores et déjà de le préparer, vous m'appellerez Sigvaris. Vous savez pourquoi ?
Non, je ne sais pas.
Je vais vous le dire.
Avec Sigvaris, vos jambes sont entre de bonnes mains.
Allez, RTL 11h.
C'est le 11 qui s'appelle Ministad El Paso. Un peu comme votre... J'ai déjà oublié votre nouveau pseudonyme, excusez-moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Sigvaris. Voilà.
Merci beaucoup. Et je sais que vous vouliez dédier ce journal...
À toutes les filles que j'ai aimées avant.
Nous les saluons. Il y en a beaucoup ?
Très très peu. Très peu.
Entre 10 et 20 ?
Je vous dirai ça demain. D'accord. Si je reviens.
C'est donc entre 1 et 3. Nous voilà. Allons maintenant faire un point info, si vous le voulez bien, sur RTL, sur tout ce qui s'est passé. Ah, alerte, que se passe-t-il? Nous sommes sur quel dossier, s'il vous plaît?
On revient sur le cas de Laurent, l'affaire de la gendarmerie dont les loyers ne sont plus payés depuis des mois. J'ai du nouveau. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous voulez laquelle?
Bah, commençons par la mauvaise.
La mauvaise, c'est que les 33 copropriétaires ont reçu une réponse des finances publiques, sachant qu'a priori, elle a été postée avant l'émission. Donc, ça n'est peut-être pas la réponse définitive et peut-être qu'il va y avoir du nouveau dans les prochains jours. Mais dans ce courrier, M. Faguet, donc le directeur des finances publiques de la Dordogne, écrit qu'il est au courant des difficultés que peut engendrer la baisse de revenus, mais qu'il ne peut que confirmer la position de l'administration, sachant par ailleurs que le pôle d'évaluation domaniale ne souhaite pas revoir son évaluation, qui demeure conforme à la valeur actuelle du marché.
Je me permets de vous interrompre. Encore une fois, que les choses soient bien claires, l'État a le droit de dire « nous ne voulons plus payer ce loyer qui a été fixé il y a 15 ans quand même ». Et dans ces cas-là, eh bien, tous ceux qui sont dans les maisons s'en vont et chargent à nos propriétaires de retrouver d'autres locataires. Mais pour l'instant, ils disent « nous ne sommes pas d'accord pour payer ce loyer après 15 ans, nous voulons qu'il baisse, nous restons dedans ». Et tant que vous n'aurez pas baissé, nous ne partirons pas. On est bien d'accord?
Oui, c'est ça.
Donc ça, c'était la mauvaise nouvelle.
C'était la mauvaise nouvelle, sachant que c'est un courrier qui a été a priori posté avant l'émission.
Donc maintenant, l'émission est à... On a tenté d'avoir un dialogue avec Frédéric Faguet. Qu'y a-t-il de nouveau?
Il y a du nouveau. La bonne nouvelle, c'est que le syndic de copropriété qui gère les locations a reçu deux règlements. Les charges du premier semestre pour 8 550 euros et la régularisation de charges pour 4 325 euros. On est loin des 71 000 euros dus.
C'est une microscopique ou nette bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont fait que régler les charges. Ils ne paient pas les loyers. Enfin, c'est quand même dingue.
C'est à tout début d'avancée quand même, Julien. C'est vrai qu'on est loin du compte 71 000 euros dus.
Ce cas est révoltant, hein. Moi, je le dis très simplement, il faut vraiment que l'État, maintenant, encore une fois, partez si vous ne voulez pas payer les loyers à ce prix-là. On a dit à ces gens-là, prenez cette maison, vous allez vous endetter, mais c'est l'État qui va le payer. On leur a mis le loyer sous le nez, on leur a dit, voilà, le loyer qu'on paiera au bout de 15 ans, vous ne voulez plus les payer, très bien, vous partez.
Et le syndic dit que ça va nous permettre de régler l'appel de charge du quatrième trimestre parce que le syndic rappelle quand même qu'eux, ils ont des factures à payer. Entretien des espaces verts, assurance multirisque de la copropriété, etc. Et donc sans ces charges, ils ne pouvaient pas payer ces fonds-là. Donc derrière, il y a d'autres entreprises qui sont lésées puisqu'elles n'ont pas leurs factures payées.
Là où c'est fantastique, c'est que ces 33 personnes paient des impôts. L'argent des impôts sert à loger des gendarmes. L'État ne paie pas les loyers. Enfin, vous voyez, c'est complètement ridicule. Et très rapidement, sur l'antenne d'RTL, puisqu'on y reviendra tous les jours, nous allons commencer, enfin très rapidement, dans les mois qui arrivent, à avoir des gens qui nous disent « banqueroute, trois fois que je ne peux plus payer mon crédit, quatre fois, quatre, cinq, six mois, je ne peux plus, c'est la catastrophe, vente aux enchères, enfin c'est une histoire de dingue. »
On ne va rien lâcher, Julien, parce que dans cette situation, l'État change unilatéralement les règles du jeu. Le montant du loyer, on nous indique qu'il se sera tel loyer parce qu'ils ont fait leur petit calcul, calcul que l'on ignore totalement. Alors maintenant, on va leur demander de nous justifier de ce qui explique la situation et à mon avis, on n'est pas au bout de nos peines.
Mais on n'a même pas besoin de leur demander de justifier. Ça fait 15 ans qu'ils paient ce loyer-là, ils ne veulent plus le payer. Ils s'en vont, ils laissent quelqu'un d'autre le payer à leur place. Enfin, ils n'ont même pas à justifier ça.
Enfin, qu'ils nous expliquent quand même comment ils arrivent à moins 30 plus moins 15 avec des pseudo-comparaisons qui n'existent que dans
les restes. Oui, parce que l'indice, en fait, l'indice du logement, Charlotte, on le rappelle, est favorable en plus aux propriétaires parce qu'en fait, ils pourraient augmenter le loyer.
Tous les ans, l'indice augmente d'à peu près entre 0,95 et 1%.
On continue, donc, pour Laurent et pour tous les autres. Autre chose?
Oui, j'ai reçu un mail de Christophe. Christophe qui est passé à l'antenne hier. Rappelez-vous, il est artisan et il est un des 33 copropriétaires. Il écrit à l'Assemblée Générale des copropriétaires que si, sous un mois, les loyers ne sont pas payés, il ne pourra plus s'acquitter des remboursements de la banque. Donc, il va demander à la gendarmerie de quitter sa maison et il va devoir la vendre. Il n'a pas d'autre solution.
Très bien. Parfait. On suit ça. Donc, dès demain, retour sur notre grand dossier. Et j'espère que Frédéric Faguet, la direction départementale des finances publiques de la Dordogne, alors Monsieur Faguet lui-même, hein, c'est pas lui qui a le chéquier, hein, ça vient de tout en haut. Il faudrait d'ailleurs savoir quel est le ministre de tutelle pour avancer dans ce dossier. On y revient demain, vous avez ma promesse. Dans une seconde, Charlotte, s'il vous plaît.
Il faut qu'on lance l'appel pour Eric qui a un internet qui ne fonctionne pas bien et donc ses élèves, lui qui a une auto-école, ne peuvent pas passer le code.
Et oui, puisqu'on le passe maintenant par internet, vous le savez, en tout cas on peut réviser et le payer. Si on n'a pas le logiciel ou en tout cas si ça coupe en permanence, ça ne sert strictement à rien. À tout de suite sur RTL. Julien.
Sur RTL.
Alors sur RTL, mesdames et messieurs, nous allons accueillir Eric maintenant. Eric, bonjour.
Bonjour.
Ah bien, je vais venir près de chez vous tout à l'heure, Eric. Vous êtes près de Lille.
Oui, eh ben tout
oui.
à fait.
Ben je viens tout à l'heure, je joue tout à l'heure à Lille le spectacle ce soir et je passerai à Villeneuve-d'Ascq, comme l'a fait d'ailleurs avant moi en repérage Céline cet été avec son camping-car.
Villeneuve-d'Ascq est surnommée la Technopole verte parce que là-bas, il y a énormément d'entreprises. Il y en a plus de 2000, mais elles sont assez espacées. L'espace est très aéré, c'est assez agréable.
Eric, vous êtes gérant d'une auto-école depuis 2016 et début septembre, suite à un démarchage commercial, vous décidez de changer d'opérateur téléphonique pour installer la fibre dans votre auto-école. Le but, avoir une connexion Internet plus rapide. Sauf que depuis ce changement, la situation est dramatique. La connexion Internet est lente, elle coupe régulièrement. Elle coupe tous les combien à peu près ?
Alors au niveau de la salle de code, c'est pratiquement en permanence. Il n'y a pas assez de puissance au niveau du Wi-Fi et on n'a pas la possibilité de tirer un câble RJ45. Techniquement, c'est ce qu'on m'a expliqué. Donc au niveau du bureau, on n'est pas trop mal au niveau de la connexion, mais au niveau de la salle de code, c'est très très problématique pour les élèves.
Ils ne peuvent pas suivre correctement la formation du code de la route. Déjà, dès l'installation de la fibre, il y a eu un souci. Le technicien n'a pas branché le bon matériel, ce qui a valu à la commerciale de se déplacer à votre auto-école pour refaire elle-même les branchements. Branchements qui, au final, se sont révélés inexacts. Cerise sur le gâteau. Au départ, lorsque vous contactiez le service client, on vous disait que votre installation ne posait pas de problème. Finalement, au bout de quasiment 2 semaines, vous avez quand même réussi à faire venir un technicien. Il a effectivement reconnu que la connexion était mauvaise, mais n'a pas pour autant réglé le problème. Et il vous a conseillé d'acheter quoi ?
Alors, il nous a conseillé d'acheter des prises CPL, nous a-t-il dit, qui fonctionneraient par le réseau électrique, de tout acheter, de tout installer, de tout configurer, ce qui est un petit peu compliqué parce qu'on n'est pas des techniciens réseau, Internet, on a peur de faire des bêtises et de détériorer encore le peu qui fonctionne.
Mais ce qui est juste insupportable, c'est qu'on vous dise, voilà, monsieur, en fait, il faut rajouter quelque chose. C'est dès le début qu'on doit le savoir. Et alors, il y a de plus en plus de cas. Moi, chez moi, je suis bien placé pour le savoir. Ça coupe en permanence. Je ne sais pas ce qui se passe avec la fibre, avec Internet. C'est insupportable. Vous avez des coupures de 5-6 minutes en permanence. On va vous aider, Eric. Nous allons demander déjà à Céline si elle a d'autres choses à nous dire.
Ce qui est terrible, en fait, c'est que lui, il a accepté, Eric, ce nouveau contrat suite à un démarchage. Donc, une commerciale est venue à son auto-école et lui a dit « Moi, je peux vous mettre la fibre dans toute l'auto-école, ça va être super. » Et il a dit « Attention, ok pour la fibre. En revanche, il faut que dans la salle de code, là-bas au fond, la Wi-Fi aille jusque là-bas pour que mes élèves puissent passer l'examen du code et s'entraîner correctement. » La commerciale a affirmé que ce serait le cas et au final, on se retrouve dans une situation où ce n'est pas possible.
Quel est l'atout que nous avons dans notre jeu de cartes ?
Et tout de suite sur RTL, l'article de loi qui va vous donner raison.
Maître Moser.
Julien, on a 2 atouts dans notre jeu de cartes. Le premier, c'est l'article L200 121-16 du Code de la consommation qui concerne le démarchage commercial qui, comme Céline vient de le dire, on vient vous proposer un service dont vous n'aviez absolument, enfin ou en tout cas pas besoin, que vous n'aviez pas demandé. Et ça, c'est encadré et on vous demande de faire un service parfait. Ensuite, c'est l'article D98-4 du Code des postes et des communications électroniques qui vous dit que l'opérateur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau.
Nous appelons immédiatement, si vous le voulez bien maintenant, Céline, nous appelons ce grand opérateur. Je dois le dire, Alain Hazard, s'il vous plaît, rapprochez-vous d'un micro. Est-ce qu'il fait partie du top 10 de ces marques qui règlent systématiquement le problème ou pas ?
Largement dans le top 10, voire top 5.
Et très bien. Business.
Donc, vous voyez, c'est plutôt rassurant, Eric. À chaque fois que nous appelons SFR, jusqu'à présent, le cas est toujours résolu. Ces gens-là nous écoutent. On va voir.
Pour écouter les mentions légales,
tapez dièse. Non, surtout pas.
Restez en ligne.
D'accord. Alors, on reste en ligne. Céline, dès qu'il y a un interlocuteur, nous allons...
Le service est réservé uniquement aux entreprises. Si vous êtes un particulier ou si vous êtes détenteur d'une ligne SFR Pro, nous vous invitons à contacter le 1023.
C'est marrant parce qu'elle me rappelle, j'avais... J'avais une gardienne dans un immeuble qui parlait comme ça. Dites donc, monsieur Courbet, il y a eu du bruit hier soir. Franchement, à chaque fois qu'on passait, et peut-être qu'elle s'est reconvertie, qu'elle a été engagée, cette affaire. Hervé Pouchol, vous êtes de retour.
Oui, je suis de retour et effectivement, j'ai passé un bon moment avec cette dame.
Est-ce que vous avez bon espoir pour cette histoire
de
fichage?
Parce qu'en fait, cette dame m'a reçu un peu d'une manière un petit peu violente.
Surprise,
mais si vous voulez, c'est normal. C'est toujours un peu impressionnant quand on vient faire un duplex.
Quand on vous voit.
Et en plus, cette personne, sincèrement, on a eu l'impression de la déranger. Elle a pris le dossier. Elle m'a dit, vous aurez de mes nouvelles. Oh, je ne sais pas.
Si ça se trouve, vous allez recevoir un procès
d'ici vendredi.
Lui, il est persuadé qu'elle va régler le cas. Vous aurez de mes nouvelles d'ici vendredi. Il va recevoir une lettre pour se présenter devant le tribunal. Bon, non, ça va.
Ça,
il le faut parce que c'est terriblement injuste. Je vous ai, si je puis m'exprimer ainsi, coupé la chic, Maître Moser, sur le cas d'Éric, là, et son Internet qui coupe en permanence, qui ne lui permet pas de faire son travail, lui qui a été démarché par SFR, vous vouliez dire?
Ouais, je voulais vous dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que SFR a proposé à notre auditeur de lui donner un CPL. Et alors moi, j'ai cherché ce que c'était parce que j'ignorais. Et c'est en fait une prise qui permet aux gens qui n'ont pas de bon Wi-Fi de pouvoir se raccorder. Alors c'est un peu comme si je vous disais, je vous vends un tuyau, mais il est creusé et voici une rustine.
Ouais,
non. Donc ça, ça ne marche
essayé,
pas.
Je vais vous le dire, j'ai essayé, voilà. Ça ne marche pas.
Et
enfin, moi, en tout cas, ça n'a pas du tout marché.
Et ça n'est pas du tout dans l'esprit de notre article qui oblige l'opérateur à avoir un service compétent.
On appelle, on trouve une solution, on est en attente, une alerte avec Céline.
Sans ligne avec SFR Business.
Alors préparez-vous les négociateurs à prendre cette dame en ligne. Bon, allô SFR Business ?
SFR Business.
Bonjour madame, je me présente, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, maintenant un interlocuteur pour quelqu'un qui a de gros problèmes avec sa connexion et comme il est professionnel, les élèves de son auto-école en ont un petit peu ras-le-bol. Je vous passe quelqu'un qui va vous expliquer tout ça. Merci madame. Pendant ce temps-là, nous marquons une petite pause. C'est vraiment des très gros cas que nous traitons aujourd'hui. Et je tiens à dire que l'équipe vraiment fait de l'excellent boulot. Elle est dirigée par notre rédacteur en chef qui arrive très tôt le matin, part très tard le soir. Je voulais lui rendre hommage. Merci Alain Hazard. Alors, plusieurs choses, mesdames et messieurs. Il se murmurerait que Hatem Ben Arfa, le joueur de foot, signerait à Bordeaux.
Non.
Nous allons vérifier ça dans quelques instants. C'est une info qui vient de tomber, mais ce n'est pas ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est le cas d'Éric.
Il a une connexion Internet très lente dans son auto-école, ce qui pose problème à ses élèves pour réviser le code.
Et moi, ce qui me pose problème, c'est que l'info sur Ben Arfa m'a été donnée par Bernard Sabat, qui était censé discuter avec SFR. Donc, inutile de vous dire qu'Éric est entre de bonnes mains. Où en est-on, s'il vous plaît, Éric?
Non, c'est SFR qui m'a donné le tuyau, Julien. Je viens de laisser un message carrément à la direction d'SFR pour qu'ils puissent prendre le dossier en main, Julien.
Écoutez, Bernard, en tout cas, vous faites feu de tout bois, hein ?
Aïe, 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 Bernard !
Allez, nous allons du côté d'SFR. Où en est-on ?
Alors, j'ai discuté avec une personne d'SFR Business qui m'a dit qu'effectivement, elle voyait qu'il y avait un incident du côté de chez Eric depuis le 15 septembre. Elle trouvait que c'était un peu long, nous aussi. Elle est en train de se renseigner sur le dossier en attendant un retour.
Alors, Eric, vous êtes entre de bonnes mains. Je ne parle pas des miennes, je parle celles d'SFR qui règlent quasiment tous les dossiers quand on les appelle. Vous me laissez peut-être, pas aujourd'hui, mais demain, je vous donne une réponse.
Non, mais aucun problème. Merci déjà d'avoir pris notre dossier, de nous avoir aidés. Et surtout, merci à toute l'équipe. Céline, vous avez été extrêmement, extrêmement agréable au téléphone. Et
vous l'avez massé encore. On avait dit qu'on arrêtait ça, Céline, avec les auditeurs.
Ah, désolé.
On ne s'occupe que des dossiers. Je suis désolé, Eric. Alors, Eric Pouchol.
Complément d'information concernant le dossier d'Eric. J'ai également contacté et j'ai eu une réponse du directeur du service client de SFR qui s'occupe en priorité du dossier de notre auditeur.
Eh bien, c'est parfait. Allez, maintenant, un peu de musique pour fêter tout ça. Je vous dis à demain, Eric, ou peut-être, peut-être qu'il y aura un rembourdissement dans les minutes qui arrivent, mais ça sera demain que ça sera réglé.
Merci beaucoup.
De rien.
Merci beaucoup.
Je rappelle que cette émission est réalisée par Xavier Kassovitch. Pour ceux qui ne le savent pas, l'été, et c'est la vraie, c'est la vérité, ce que je vous dis, il anime pas mal de soirées dansantes dans les campings, notamment dans le sud-est. Mais c'est vrai, ne riez pas. C'est la vérité. Oui, oui. Son épouse chante, parce qu'elle chante merveilleusement bien. Elle chante devant tous les campeurs, et lui, derrière, assure la soirée dansante, on est d'accord ?
Complètement.
Et parmi la playlist, parce que je lui ai demandé qu'est-ce que tu mets comme disque pour faire danser, il y a ce que l'on va écouter maintenant. Vous le mettez vers quelle heure en général ?
Un peu plus tard dans la soirée, celui-là.
Ça doit être terrible, ces soirées. Parce qu'il anime au micro comme ça.
J'espère que tout le monde va bien. Oh, c'est la fête ce soir.
Allez les campeurs.
Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on s'éclate.
Petit peu en retard, demain on revient sur Ne m'appelez plus jamais France avec Aurélie. Le rectorat lui doit 7000 euros depuis 4 ans. Nous revenons sur Gabrielle, maman de d'un enfant handicapé. Elle-même handicapée, l'État a perdu son procès contre elle et lui doit un appartement. Et toujours les 33 propriétaires qui ne se font pas payer le loyer par l'État. Alors nous avons tout de suite quelqu'un en ligne. Maintenant, j'en profite pour remercier Anne-Claire Moser, avocate à Reims, d'être venue nous conseiller. Et bravo à toutes les équipes, le combat continue cet après-midi. Et là nous avons celle qui est en Gironde. Oui, c'est Alexandra.
Bonjour.
Qui est d'origine polonaise.
Oui, tout à fait.
Alors, comment on dit « je suis contente d'avoir gagné en polonais »
J'en ai strictement aucune idée.
Eh bien, moi non plus, mais peu importe, vous avez gagné 1000 euros cash.
Merci.
Allez,
beaucoup,
je vous fais un gros bisou, gros bisou. À très très bientôt, Alexandra.
Merci encore, merci beaucoup.
Et merci aussi à notre Hervé Pouchol qui était en duplex et qui fait bouger les dossiers en allant à l'extérieur. Bonne journée à vous tous, on se retrouve demain à 9h30.